Sud Radio 10h midi, débat.
Et on est ensemble jusqu'à midi, on a pris un petit peu de temps avec Roselyne Fèvre, mais c'était vraiment bien, donc on va aussi profiter du temps qui nous reste pour débattre jusqu'à midi avec Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, vous êtes
Salut, bonjour.
Marseille, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération, bonjour à vous. Jean-Claude Beaujour, avocat, vous êtes vice-président de France Amérique, et Rudolf Granier, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
C'est une première. Vous êtes conseiller de Paris, élu dans le 18e arrondissement et plutôt LR.
Même totalement LR.
Même totalement LR, voilà. Non, parce qu'on ne l'a pas indiqué, mais c'est bien de situer un petit peu les gens. Donc, on va revenir encore une fois sur le rapport Sauvé, le secret de la confession plus fort que les lois de la République. C'est ce qu'a affirmé hier un prêtre. On va en reparler. Le conseil de défense qui se réunit ce matin et qui va annoncer la fin du pass sanitaire dans un certain nombre de départements et d'endroits. Et en plus, on a appris, on va y revenir, le prix des tests PCR. Et puis, oui, Éric Zemmour est-il le candidat de la droite? C'est en tout cas ce qu'il a dit hier. Petite phrase passée un petit peu inaperçue. On va en reparler. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec vous, Jean-Luc, à Marseille.
C'est plus qu'un coup de gueule.
Ouais. Une indignation.
Complètement. Je vais essayer de le dire tranquillement. On nous annonce, il y a maintenant près de 5 jours, que la grève des éboueurs est terminée. Mensonge complet, elle n'est pas terminée. Il y a eu des négociations entre la métropole, et non pas la mairie de Marseille, la métropole, et un syndicat, Force ouvrière, c'est tout. Il n'y a pas eu de négociation globale. En fait, la situation peut... Rien ne se règle de cette manière-là. Alors, pourquoi je suis furieux? Parce que, vous l'avez tous vu, énorme orage sur Marseille, quasiment il n'y a jamais eu d'orage aussi fort que ça depuis au moins 50 ans. Pollution dans les rivières, pollution maritime qui est gigantesque, qui va durer des années, j'irais même jusqu'à dire des siècles. Alors, mobilisation incroyable hein, de Marseillais et de Marseillaises sur les plages, vous avez vu les images, les centaines de personnes qui ramassent.
Ouais.
Mais il faut ramasser tous les jours pendant des mois, là, maintenant.
Ouais.
Aussi bien sur les rivières. Parce que sur les rivières de... Il y a des rivières à Marseille, c'est étonnant, mais il y en a. Notamment l'Uvaune. Chaque année, des centaines de bénévoles ramassent des déchets, continuent à ramasser des déchets. Mais tant qu'il n'y a pas une politique réelle de gestion des déchets sur l'ensemble de la métropole, tout ça, malheureusement, c'est bien, c'est valeureux, mais ça ne sert à rien. Et le temps que la préfecture, les différentes instances, notamment la métropole, se disent, là, on est vraiment dans l'urgence sanitaire, et on parle de sanitaire depuis 2 ans maintenant, hein, et là, les monceaux de poubelles, les images sont terrifiantes.
On les voit pas beaucoup à la télévision, hein, d'ailleurs, ce que vous dites.
Vous avez vu les plages, mais vous n'avez pas vu les places de Marseille.
Oui, c'est ça.
Vous n'avez pas vu la plaine, vous n'avez pas vu le cours Julien, vous n'avez pas vu mes propres rues. Personne n'est passé, mais personne n'est passé depuis 5 jours ou 6 jours. Personne.
Oui.
C'est honteux. Et il y a urgence totale sanitaire et écologique. Voilà. Alors, dans ces cas-là, alors la préfecture a réagi hier soir tard. Mettant une politique d'urgence. Mais il est midi, là. Hein.
Ouais.
Je circule en ville, je circulais ce matin en scooter et à vélo, les deux, hein, successivement, je sais pas les deux à la fois. Non, rien. Voilà. S'il y a urgence, clairement, je sais qu'on ne peut pas appeler les militaires à chaque fois, mais non. Là, par rapport aux tonnes...
Vous dites pourquoi il n'y a pas une...
Il n'y a pas... les éboueurs, petit à petit, vont reprendre, c'est normal. Ok, très bien. Mais... Le reste, mais il est des endroits où il faut... je n'abuse pas. Hein. Il faut 6 bennes par endroit. 6 bennes, 8 bennes par endroit.
Ouais, ouais, ouais.
C'est-à-dire que le retard accumulé... Et puis en plus, c'est Marseille. Après la pluie, il y a le Mistral. Et donc tout ça continue. C'est-à-dire que tout ce qu'ont ramassé tous ces associatifs, toutes ces populations courageuses, il faut recommencer ce matin. Il faut recommencer ce soir, il faut recommencer demain. Voilà, il faudrait mettre là des moyens considérables. Je sais que ça va venir, mais c'est beaucoup, beaucoup trop lent. Et c'est pour le Marseillais
mais alors pourquoi
que je suis,
Pourquoi il n'y a pas effectivement... parce que c'est sanitairement, ça devient très dangereux. Hein.
C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est... Bon, je sais prendre le téléphone, j'appelle la métropole, je tombe sur des braves gens hein, qui me répondent. Au bout d'une discussion, j'engueule pas les gens qui me répondent, parce que c'est les gens qui répondent. Alors, ils nous disent, oui, monsieur Bélanias, ça va venir. Oui, ça va venir, mais quand? Et donc, voilà, il y a un moment donné, il faut accélérer les processus. Et à ce niveau-là, je dis que l'État, et donc la préfecture, est en partie responsable. Ouais. Et que la métropole, hier, il y a eu une réunion du conseil métropolitain, j'arrête là-dessus, hein, qui disait, oui, mais on pouvait pas savoir qu'il y aurait la pluie.
Mais il y a la pluie. Donc, ouais. Alors Michel, vous allez répondre. C'est l'heure. On a un petit peu de retard. On va marquer une pause. C'est l'heure du journal. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus, 0826-300-300, vous savez que vous avez la parole. On est avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération, il existe toujours, mais c'était l'ex-mouvement de Benoît Hamon. Jean-Claude Beaujour, les deux existent toujours, oui, mais il n'est plus patron de Génération. Non. Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France Amérique, et Rudolf Granier, conseiller de Paris et élu dans le 18e arrondissement de la capitale. Alors, vous vouliez réagir, Michel Pouzol, on va parler évidemment d'Éric Zemmour. Il a lâché cette petite phrase, je suis le candidat de la droite. On va revenir également sur le secret de la confession, plus fort que les lois de la République, petite phrase qui a beaucoup fait réagir hier, lâché sur un plateau de télévision par un prêtre et puis conseil de défense. Que va-t-il en sortir, Michel ?
Oui, non, l'impression qu'on a de loin, hein, parce que c'est, la situation marseillaise est toujours un peu particulière, on le sait bien, c'est quand même que ces conflits avec, autour du ramassage des ordures ménagères, enfin des ordures en général, à Marseille, se ressemblent, se succèdent et se ressemblent. C'est-à-dire que on a une opposition frontale entre les syndicats qui défendent ce qu'ils ont à défendre et la métropole, et qu'on prend les Marseillais en otage, et qu'on sait bien, quand la tension devient extrême, qu'on va trouver une solution, parce qu'il va bien falloir la trouver, et je me dis, ce scénario pourrait sans doute être évité par des négociations un peu plus ouvertes, parce que là, on voit bien qu'on a deux parties en face qui vont se rejeter la faute. Et au milieu, c'est les Marseillais qui payent.
Ouais.
Mais je vous dis, surtout la sensation que c'est pas la première fois que les conflits se passent de cette façon-là à Marseille. Je trouve que on pourrait sans doute travailler différemment. Et en tout cas, à mon avis, je serais Marseillais, j'essaierai d'exiger que ça se passe différemment. Parce que c'est quand même pas possible de faire vivre un enfer comme ça au quotidien.
Comment c'est possible
aux Marseillais.
Ouais. Alors, oui, Jean-Luc.
Et ça n'est pas que Marseille, c'est l'ensemble du département, puisqu'il y a la métropole et que la gestion des déchets est tenue par la métropole.
Et ça
touche donc Aix, Salon, Martigues, je ne vais pas faire toutes les grandes villes, mais ce sont quand même, je cite là, des grandes villes, hein, des villes de plus de 100 000 habitants pour certaines. Ça touche tout ça. Et tu as raison, Michel, une négociation globale une fois pour toutes.
Oui.
Serait absolument nécessaire, avec l'ensemble des participants et participantes, État compris. Parce que ça fait des mois, ça fait des années que ça dure et que ça recommence.
Oui.
Et que quand on négocie avec une seule organisation syndicale, on n'a pas négocié. Quand l'ensemble des partenaires, pouvoir public, État, métropole, différentes mairies ne discutent pas ensemble, eh bien ça donne que le sujet réapparaîtra dans 6 mois. Vous savez, je termine là-dessus parce que j'ai déjà été trop long.
Non,
vous avez entendu, il y a 3 ans, on avait négocié la fin du fini parti, du fameux fini parti. Mais rien n'est terminé par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a eu négociation, ça n'a abouti qu'à une signature, et derrière, rien n'a changé. Et je dis là, il y a urgence et sanitaire et écologique, parce que l'écolo que je suis à ce niveau-là, bon, évidemment, il y a cette pression, c'est dégueulasse, les poubelles, c'est horrible. Et puis, il y a cette pression sur les rivières et la mer. Mmh. Et là, on en a pour des dizaines d'années.
Ouais.
C'est un véritable... Sérieusement, je pèse mes mots, hein, mais c'est un véritable scandale.
Oui. Évidemment, au-delà de... Moi, je souscris complètement à ce que vient de dire Jean-Luc Benamias. Et au-delà de tout cela... Je pense que les hommes et les femmes qui sont en responsabilité ne se rendent pas compte qu'en faisant mal leur travail sur ce dossier-là, ils sont malgré eux ou inconsciemment des fossoyeurs de la République parce que nos concitoyens ne comprennent pas, mais ne comprennent vraiment pas toutes ces arguties juridiques, administratives, et ont le sentiment d'être une fois encore d'être des laissés pour compte, parce que ceux qui en souffrent le plus sont évidemment ceux qui vont avoir moins de manœuvres pour pouvoir se débarrasser de leurs déchets, qui vont avoir, qui vivent déjà parfois dans des espaces petits, etc. Donc, je pense qu'on ne se rend pas compte que ce sont ces petites choses qui, au quotidien, minent la vie et font qu'il y a un ras-le-bol général qui s'exprime après, soit par de l'abstention, soit par des votes polarisés. Donc, j'ai envie de leur dire, prenez vos responsabilités parce que vous êtes les véritables fossoyeurs de la République.
Ouais, j'imagine qu'en tant que conseiller de Paris, ça vous...
On a des difficultés.
Ouais, parce que je crois qu'il y a un conseiller de Paris où je ne sais plus, quelqu'un nous a dit, mais il va se passer la même chose à Paris.
Et ça peut arriver tout simplement parce que les gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les travailleurs, on voit deux choses. Ça peut se produire à Paris, comme vous le dites très justement, puisqu'on a une difficulté sur le temps de travail aussi. Également, je crois qu'il y a à peu près 5 000 équivalents temps plein pour la propreté à Paris, alors qu'il devrait y en avoir 7 000, tout simplement parce que les agents ne travaillent pas le nombre d'heures qu'ils devraient travailler. Et je vois, moi, à Marseille, un facteur supplémentaire, le caractère non progressiste du dialogue syndical, où on a un facteur de blocage avec un syndicat qui n'est plus majoritaire aujourd'hui chez les éboueurs à Marseille, mais qui continue à dicter sa loi et à plonger la ville dans un marasme absolument incroyable. Mmh. Donc, à un moment, c'est déjà, on va prendre le problème à la base, pas les questions de compétences entre la métropole, entre la ville, le département, et puis quand plus personne ne sait faire son travail, on fait intervenir l'armée. J'ai l'impression que l'armée, c'est la solution à tout pour les cités, quand la police n'y arrive plus. Pour l'éducation nationale, c'est la police qui doit intervenir, et c'est l'éducation nationale qui doit intervenir quand les parents ne font plus leur boulot. Donc à un moment, on est toujours en train de rejeter le truc sur l'autre. Exactement, personne n'assume proprement ses responsabilités, à commencer par ceux qui travaillent et leurs représentants syndicaux, que je les trouve preneurs d'otages, en réalité, par rapport aux habitants de Marseille.
Un petit mot, mais moi, je voulais parler d'une expérience que j'ai connue dans le Var il y a quelques années, quand j'ai rencontré mon épouse qui était de la région de Toulon. Le Parti Fini, ça a eu un sens à une époque, c'est-à-dire que le Parti Fini, ça a eu un sens.
Quand vous avez terminé votre tournée, vous partez.
Mais ça a considérablement amélioré la collecte des déchets, notamment dans le Var à l'époque et dans la région de Toulon, parce qu'il y avait un énorme problème. Donc, ça a réglé un problème pendant un temps, puis il y a eu des dérives autour de ce concept-là. Et donc, on ne peut pas opposer simplement être toujours dans ce manichéisme des deux. C'est-à-dire, c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, c'est pas simplement une question d'heure, mais c'est un sujet extrêmement complexe, ces déchets, mais il faut se mettre autour de la table et en prendre vraiment conscience. Enfin, c'est vraiment un sujet fondamental pour le bien-vivre et l'écologie, bien entendu.
On a entendu le cri d'alarme lancé par Jean-Luc Benhamia. C'est effectivement trop peu d'images. On nous reproche parfois de parler de Paris, vous avez certainement raison, mais Marseille, moi, j'ai pas vu, effectivement, à part les plages, ce que vous décrivez, Jean-Luc. Jean-Claude, complètement autre chose, c'est un conseil cinéma.
Parce que il y a un film qui sort sur la Légion étrangère, histoire d'une vie, tranche de vie. Moi, je pense que, alors même qu'on parle beaucoup de la perte de la France, nous serions dans une situation dramatique à cause de pour des tas de raisons. Moi, j'ai envie aussi de dire qu'il y a des gens qui s'engagent. Ouais. Et dans la Légion étrangère, ce sont, vous savez que c'est une des unités de combat de l'armée française où des étrangers viennent combattre sous le drapeau français. Mmh. Ils combattent. On l'a vu dans l'histoire et plus récemment, il y a eu Colvézi, il y a eu Dien Bien Phu, il y a des opérations au quotidien. Ces gens-là paient le prix du sang sous le drapeau français. Donc, pour moi, c'est un superbe film. J'invite les uns et les autres...
Ça s'appelle Le Légionnaire.
Le Légionnaire. J'invite les uns et les autres à aller le voir, parce que c'est aussi un signe qu'il n'y a pas que du négatif dans notre société d'aujourd'hui. Il y a aussi des choses qui doivent nous donner espoir et qui, en tout état de cause, viennent redire qu'il y a des pistes à explorer. Là, c'est notamment l'un des exemples à montrer d'hommes et de femmes qui s'engagent.
Mon Légionnaire, ça s'appelle. Voilà. Mon Légionnaire, pas Le Légionnaire, Mon Légionnaire
qui est sorti hier.
De Rachel Lang, qui est sorti hier, qui est peut-être meilleur que le James Bond.
Ne soyons pas méchants, très
controversé, voilà.
Mais en tout cas, oui, c'est un film, pour moi, un film d'engagement, et il faut absolument aller le voir.
Alors, Michel, vous, c'est un coup de gueule ?
Oui, enfin, c'est un coup de gueule, c'est un chiffre, en fait. vous écrivez 113 sur un tableau, puis vous rajoutez 11 zéros derrière, et vous avez la somme de révélée par les Panama Papers de la l'évasion fiscale au monde.
Les
Pandora Papers. Ouais. Voilà, ça fait alors le chiffre veut plus rien dire. Ça veut dire 113 000 milliards d'euros qui échappent à l'endroit où ils devraient aller, puisque c'est dans chaque pays. Ça concerne à peu près 400 personnes, dont une bonne trentaine de dirigeants de nos nations. Pour la France, c'est 60 milliards d'euros de manque à gagner pour les comptes publics. On pourrait doubler le nombre d'hôpitaux quasiment avec ça. On pourrait embaucher 1 500 000 foncières de plus par an. Enfin, on pourrait faire beaucoup de choses.
Et des éboueurs à Marseille.
Et je trouve que on n'en parle pas beaucoup, pas assez en tout cas. Beaucoup moins. J'ai pas entendu beaucoup de ministres en tout cas. Les ministres qui chassaient au moment de la rentrée, les gens qui touchaient la prime de rentrée pour acheter des soi-disant des écrans plats, je pense qu'ils pourraient se scandaliser beaucoup plus pour ces choses-là. L'ancienne présidente de Télécarmonde, quand on lui parlait de la fraude aux prestations sociales ou de la fraude des pauvres en général, disait la fraude des pauvres est une pauvre fraude. Quand on voit celle des riches, là, on peut pas dire la même chose.
C'est pas de la fraude.
C'est la fraude fiscale.
C'est légal.
Non. C'est pas de l'optimisation. C'est de la fraude fiscale.
Dans le cas de DSK, en l'occurrence, c'est de l'optimisation fiscale.
Là, je parle pas de DSK. Je parle de ce rapport-là. Vous allez voir, c'est de la fraude fiscale.
Moi, je pense que après, effectivement, il peut y avoir des nuances entre fraude et optimisation fiscale. Plus généralement, et j'ai envie de dire au-delà de cette affaire, ce qui doit nous obliger à réfléchir. La question fiscale est fondamentale pour l'avenir de notre société, parce qu'on voit bien que défaut de recettes, c'est incapacité à mener des politiques publiques. Et je vais vous prendre un exemple. L'endettement et le coût de la solidarité en France est tel que concrètement, ça nous empêche, et en tout cas, ça nous limite dans, par exemple, la politique qu'il faudrait mener pour pouvoir réindustrialiser notre pays. Donc, c'est vrai que la question des recettes fiscales est importante, et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes doit être un sujet d'importance. Si, en plus, nous ne voulons pas que les règles visant à lutter contre la corruption nous soient imposées par nos partenaires étrangers, parce que c'est le cas notamment où des règles américaines viennent nous dire, comme vous ne savez pas lutter contre la corruption en Europe...
Ça concerne le monde entier.
Mais je pense que ce débat, il faut aller au-delà du simple des Panama Papers et se demander, puisqu'on va être on est en période électorale, là, il y a un vrai sujet sur lequel nous devrions tous être d'accord, parce qu'il y va de l'avenir de notre démocratie.
Mais ça vous interpelle pas, on l'a évoqué quasiment tous les jours, nous on a reçu Élise Lucet très longuement lundi, sur le fait qu'il n'y ait pas... Et on a Gilles de Castelnau qui a fait un coup de gueule, mais lui en disant, ça, c'est quand même un truc qui est très organisé par Soros, il n'y a pas un seul, Américain dedans, un patron du CAC 40 non plus, c'est assez imparfait, et c'est principalement de l'optimisation fiscale.
Ça a quand même le mérite de donner un ordre d'idée, et pour bien ancrer les choses, ça représente 70% du PIB de l'Europe.
Moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce dossier-là, et je rejoins les propos de Jean-Claude Beaujour, c'est ce que ça peut créer chez les personnes qui payent l'impôt de manière régulière. Oui, et c'est-à-dire que là, on est en train de casser un contrat qu'il existe entre les Français et l'État, c'est le consentement à l'impôt qui commence à être écorné de plus en plus. Moi, je suis tout à fait d'accord, et je ne dévierai jamais là-dessus, pour voir le produit de mon impôt sur le terrain en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, en termes de ramassage d'ordures. Par contre, qu'on fraude de manière aussi massive d'un côté, et qu'ensuite il y ait toujours de plus en plus de dettes, notamment à la ville de Paris ou au sein de l'État, pour ne pas voir à quoi sert mon impôt, on est en train de mettre un coup de canif dans ce fameux contrat qui est fondamental entre les citoyens et un État.
Bien sûr. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Ce sera votre coup de gueule, Rudolf, qui va nous emmener sur nos débats. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Luc Benamias, Michel Pouzol, Jean-Claude Beaujour et Rudolf Granier. Alors Rudolf Granier, votre coup de gueule.
Mon coup de gueule ce matin, c'est les salves de sondage qu'on reçoit quotidiennement. À ce rythme-là, tout le monde y perd son latin et chacun a un sondage qui lui est favorable. Je voudrais faire pas d'histoire antique, on va simplement revenir sur quelques élections. En 2002, le duel Chirac-Le Pen, il n'avait jamais été prévu, je parle du printemps. Donc la période dans laquelle on est aujourd'hui, en 2007, Ségolène Royal devait gagner 53-47, finalement c'est Nicolas Sarkozy qui fait 53%. En 2012, au printemps, François Hollande était un troisième candidat des socialistes, finalement il gagne.
Il y a eu un accident.
Il y a eu plusieurs accidents, mais je vais y venir. Ouais. En 2017, Emmanuel Macron est un outsider, un an avant, un hypothétique candidat qui se lance seulement en novembre 2016. Au printemps 94, souvenez-vous, le leadership à gauche était disputé entre Rocard et Delors. C'est un troisième homme, Lionel Jospin, qui sort du chapeau. En printemps 2016, pareil, Juppé était l'ultra favori. Il n'est même pas présent à l'élection présidentielle. En gros, depuis 95, aucun sondage n'a jamais prédit correctement l'ordre d'arrivée du premier tour un an avant. Sur les 20 principaux candidats depuis 95, même pas la moitié ont récolté un score qui est à peu près cohérent avec les sondages un an avant. Certains se sont même effondrés. La droite est encore en tête l'épisode Balladur-Chirac. Et certains ont réalisé d'énormes percées. Jean-Marie Le Pen en 2002, Bayrou en 2007 de mémoire, Mélenchon en 2012, 2017.
Giscard en 74.
Peut-être parce que j'étais pas né que je peux pas remonter jusque-là, mais je suis sous Giscard. En tout état de cause, il y a un grand perdant dans toute cette mécanique sondagère. Les sondeurs, on le voit sur les régionales également, il n'y a pas si longtemps que ça en France. Non, c'est le débat. C'est le fond qui est totalement perdant là-dessus. Et on a l'impression qu'on est dans une espèce de course après le résultat à deux chiffres. Il faut être au-dessus de 10, il faut être à 15-16 pour accéder au second tour. Bref, tout ça est un peu délirant parce qu'on en mange tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Ouais. Moi, ce que je souhaite pour cette présidentielle, c'est un peu de sagesse, un peu d'académie, un peu de débat et qu'on parle du fond.
Oui, mais le fond, encore une fois, ou en tout cas les sujets, on l'évoque ici un peu... pas dire malgré nous, mais c'est que c'est Éric Zemmour qui impose,
il fixe le tempo sur un sujet qui, je l'ai dit à votre antenne et je me suis fait reprendre sur les réseaux sociaux, mais moi, Zemmour, il est là, il donne une note d'ambiance. C'est-à-dire que sa petite musique qui est en train de percer, pour moi, c'est une problématique qu'on ne peut pas mettre de côté sous prétexte ce serait d'extrême droite. Mais la famille politique à droite a une responsabilité. Il faut être un moment honnête et se regarder dans le miroir. C'est que ça a été un thème de campagne de tout temps pour la droite.
Et
ça n'a jamais rarement été un thème d'exécution politique.
La vraie question, c'est sur les sondages. Et sur ce sondage Harris Interactive qui bruissait déjà, il y avait des fuites déjà avant-hier, et au tel point que Challenge, qui a commandé ce sondage, a été obligé de le publier en avance. Jean-Luc, je vous ai interrompu. Allez-y, Jean-Luc Benhamias.
Non, pas...
oui.
Quand on lance un produit qui s'accroît. Si, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Totalement.
On ne peut pas être d'accord, c'est factuel.
Il n'y a rien à dire. C'est votre analyse sur les 40 ans de période présidentielle où, globalement, on ne sait jamais ce qui a été annoncé 6 mois avant qui est arrivé, est fort juste. Non, quand on lance un produit, Zemmour est un produit publicitaire, et que ce garçon, je ne sais même pas comment le CSA arrive à calculer le temps d'antenne. Parce que je pense que le temps d'antenne de Zemmour aujourd'hui doit à peu près dépasser le temps d'antenne de l'ensemble des candidats et candidates potentiels. Et quand on lance un produit de ce genre, évidemment, à un moment donné, ça marque. C'est ça la pub. C'est ça comme ça que ça marche. Donc, moi, je trouve, puisque c'est le sujet, merci pour avance sur les sondages, mais le sujet, c'est comment on a lancé ce produit. Alors, voilà. Alors, le produit, évidemment, il se lance sur une thématique. Les islamistes, les musulmans. Je me demande d'ailleurs comment nos compatriotes français d'obédience musulmane arrive à supporter ça tous les jours. C'est absolument incroyable. Je ne parle pas de l'islamo-fascisme, je parle là de gens qui se reconnaissent dans leur religion ou dans leur façon de faire comme musulmans. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faudra que ça cesse parce que ça n'est pas possible. Tout le monde sait bien que le problème, je l'ai déjà dit sur Centaine, de la présidentielle, après, c'est de trouver les signatures de maires. De trouver les signatures de grands électeurs qui peuvent signer pour la présidentielle. Et qu'on n'aille pas me faire dire que Éric Zemmour va trouver les signatures partout. Il faut qu'un certain nombre de médias, je dis bien un certain nombre de médias, je ne les cite pas, se rendent compte qu'ils sont responsables à ce niveau-là de la montée incroyable d'une personnalité qui n'est pas une personnalité.
Oui, mais je veux bien que les médias soient responsables, mais...
Non, d'une partie, j'ai dit.
Mais... Et le fait d'en parler, mais il est forcé de constater qu'il monte dans les sondages, ou alors à moins de dire que tout ça est un vaste complot,
Je pense que je partage ce qui a été dit par Ulof. Le vrai sujet... c'est qu'on a depuis 20-30 ans un certain nombre de problématiques et les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche sur un certain nombre de thématiques, n'ont pas délivré. Alors c'est vrai que pour moi c'est un tour de passe-passe puisqu'on le candidat qui est donné comme potentiellement au second tour face au président de la République aujourd'hui dit un certain nombre de choses. Moi j'attends, je veux voir de manière concrètement ce qu'il propose et on laisse croire aux Français qu'en un tour de passe-passe, on va comme par hasard résoudre les problèmes. Et vous voyez que sur le précédent sujet, nous disions quoi ? Nous parlions de fiscalité, et je pense qu'il faut avoir le courage de dire aux Français pour qu'on puisse refaire France, pour qu'on puisse bâtir ce contrat social, pour qu'on puisse réindustrialiser, eh bien il va falloir faire un certain nombre de choix, eh bien il va falloir revisiter complètement notre système fiscal. Eh bien par exemple, si on veut éviter le problème de la question migratoire, qui n'est pas simplement une question d'immigration en France, la question migratoire sur l'ensemble du globe, que ce soit vis-à-vis compte tenu de la population subsaharienne, que ce soit en Amérique, avec la pression migratoire, elle est liée à un certain nombre de multifacteurs. C'est la question climatique, c'est l'instabilité des États d'origine, c'est la corruption dans les États d'origine. Eh bien, tout cela favorise, parce qu'on ne part pas de Bamako ou d'Abidjan, ou bien quand on est au Guatemala, on ne part pas aller vivre dans un gourbi dans le nord de l'hémisphère simplement par plaisir. On n'affronte pas la mer, la Méditerranée ou des choses épouvantables simplement en se disant, bon là-bas il y a une petite allocation familiale à toucher. Ça, il peut y avoir des tendances comme ça, mais globalement les gens souffrent. Donc c'est là-dessus qu'il nous faut lutter. Et moi je pose la question, est-ce que nous ne sommes pas assez nombreux dans ce pays pour nous réveiller, parce que je pense que nous sommes une majorité, à dire il faut trouver les bonnes solutions et imposer que les responsables publics aillent sur la voie des bonnes solutions. Eh bien, où sont tous ceux qui dorment ? Donc, face à Éric Zemmour, eh bien, moi, je vous dis, il y a tous ceux qui ne militent plus aujourd'hui et qui devraient peut-être s'interroger. C'est ça, la responsabilité des uns et des autres.
On a la chance d'être dans un
mot sur ce que vous dites, notamment sur l'immigration. Je discutais avec un responsable d'association afghane il y a quelques jours, qui m'expliquait que la plupart de sa famille était partie, la moitié en Iran, la moitié au Pakistan, et qu'ils étaient en danger autant au Pakistan que... Mais, il me disait, le réflexe, c'est pas de venir directement ni en Allemagne, ni en France. C'est d'aller dans les pays à côté où on espérera que ça sera. On pourra peut-être revenir un jour. Alors, ça, c'est la première chose. Ce que je veux dire sur les sondages, après, ce qui est terrible, c'est que ça tue le débat partout. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe un peu à gauche, même si ça peut paraître anecdotique. Mais on voit bien les discussions.
Les
discussions qui se passent entre tout le monde est en train de dire on veut pour l'unité derrière chacun, soit bien entendu. Mais on voit bien que chaque sondage nourrit la réflexion en disant on veut l'unité, mais derrière moi. Alors le jour où Éric Jadot passe en tête, naturellement il se pose comme le rassembleur naturel. Et moi je suis plutôt pour cette solution. Mais le jour où Jean-Luc Mélenchon, comme dans ce sondage-là, revient au-dessus de 11%, et il explique qu'il faut faire l'union. Donc le débat est mort, y compris à cause de ces sondages. Et puis après sur le cas Zemmour. Il y a quand même un phénomène, Zemmour, c'est que c'est lui qui a remonté les audiences de CNews qui étaient en péril. C'est-à-dire qu'à l'époque, Bolloré voulait plus ou moins fermer cette chaîne-là. Et Zemmour a eu un effet magique en captant un public qui n'avait pas de porte de sortie dans les médias, ça fait tache d'huile, ça donne d'autres idées à beaucoup de gens, et cette réalité-là,
vous auriez mis Benoît Hamon à 19h sur CNews, je suis pas sûr qu'avec ses idées, il aurait fait 800 000 téléspectateurs.
Je n'en suis pas si sûr quand je voyais le nombre de gens qu'il arrivait à réunir dans les facs après avoir fait 6,5%. Quand on le fait comme ça, qu'on matraque, ça fonctionne.
Mais dans les facs, vous avez un public qui vient vous chercher.
Non, mais ce que je veux vous dire, vous avez une offre... Sauf que, effectivement, je viens de vous dire que ça a marché parce qu'il y avait un public pour lui qui ne trouvait pas d'issue dans les médias avant. Donc je ne vous ai pas dit que ça marchait pas.
Mais le public sont nos concitoyens.
Maintenant, la différence entre ce que ça marche sur une chaîne d'info et qu'on en fasse un favori pour des élections présidentielles au deuxième tour. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand Le Pen est passé au deuxième tour, il y a eu des études qui ont été faites après. Le nombre de reportages en télévision sur l'insécurité a été multiplié par 20 dans le mois qui suit précédé l'élection. On sait l'importance qu'a eu la diffusion du film d'Artus Bertrand à la télévision juste avant le très bon score des écologistes aux élections européennes. Donc, ne dites pas que les médias n'y sont pour rien, ils y sont pour quelque chose. Oui, il y a un phénomène Zemmour, c'est clair qu'il regroupe à partir de l'extrême droite. Par contre, moi, quand j'entends, comme hier soir, la phrase de Zemmour, juste la phrase de Zemmour, disons, que en parlant des enfants transgenres, c'est comme des expériences de Mengele, et que ça passe aujourd'hui dans les médias, tranquillement, que ces allusions, son révisionnisme passe tranquillement. Là, je me dis, oui, si on a tous une responsabilité collective, les médias
aussi.
Allez,
on va y revenir. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et on est ensemble avec Jean-Luc Benamias, Michel Pouzol, Jean-Claude Beaujour et Rudolf Granier. Alors, votre coup de gueule que j'avais gardé en dernier à propos des sondages nous emmène sur le débat autour d'Éric Zemmour et de ses sondages. Quelques réactions d'auditeurs pour vous, Jean-Luc. Une auditrice nous dit: Zemmour parle des musulmans qui ne veulent pas respecter les lois de la République. Il prône un islam républicain sur le modèle du judaïsme républicain. C'est ce qu'elle nous dit. Oui,
elle a le droit de le dire.
Alors, c'était Michel, je crois, qui veut. Non, qui est-ce qui. Je ne sais plus où on en était. C'était peut-être vous.
C'était pour Rodolphe, moi, parce qu'on était sur un cas.
Oui, sur savoir que les médias sont responsables.
Normalement, tout le monde est suffisamment éduqué pour soit appuyer sur un bouton pour regarder une chaîne de télé, soit l'éteindre. Mais en tout cas, au moins essayer de comprendre ce qui est dit. On va passer quand même sur ce que moi j'appelle le fond de la campagne présidentielle, c'est-à-dire le débat. Et je rejoins Monsieur Benabas là-dessus. On a vu ce qu'un candidat marketing.
Pardon. Benabas.
C'est excusable.
On peut être d'accord. On peut être d'accord chacun son tour, l'un avec l'autre. On voit ce qu'un candidat issu d'un produit marketing politique pur à donner, c'était Emmanuel Macron. On peut ne pas en être satisfait, il y a quand même beaucoup de choses à redire. Donc on ne va pas refaire une construction politique avec des coûts marketing comme Éric Zemmour le fait. Les solutions qui permettront, à mon avis, de faire baisser Éric Zemmour, on en parlait hors antenne, c'est, je pense, qu'une fois qu'il sera confronté au débat, et ce que nous appelons de nos voeux à droite, enfin ce que moi j'appelle de mes voeux à droite, pardon, c'est qu'on puisse se confronter, des idées, le fond, et ça, on verra très vite qu'Éric Zemmour ne tiendra pas très longtemps. Et notamment sur un de ses thèmes forts, la question de la souveraineté, c'est quelqu'un qui déteste la pratique parlementaire, c'est quelqu'un qui déteste le parlementarisme. Il va falloir à un moment qu'il se mette à table et qu'il nous explique comment est-ce qu'il va négocier quoi avec Bruxelles, par exemple, sur des questions de souveraineté nationale. Il faut être très serein là-dessus, il faut avoir les idées claires, poser. Il faut connaître aussi la mécanique bruxelloise pour pouvoir aller l'affronter encore mieux. Et je pense malheureusement que Zemmour sera dans une incapacité totale de dérouler quelconque programme, de dérouler quelconque pratique gouvernementale.
Alors il a eu cette petite phrase hier, je suis le meilleur candidat, je suis le candidat de la droite. Est-ce que ça veut dire qu'il se déclare
Oui, il est candidat de la droite maurassienne.
Le mot candidat, il l'a prononcé.
Il se revendiquait du RPR, il se revendiquait du gaullisme, et là, il se revendique candidat.
Attendez, parce que c'est chez les Républicains que nous avons une responsabilité immense là-dessus, c'est quand même de remettre l'église au milieu du village, de raconter une vérité, celle qui est de notre histoire. Je ne vois pas comment une droite pétainiste et une droite gaulliste peuvent se réconcilier en une seule personne, désolé de le dire. Le discours révisionniste d'Éric Zemmour, mérisse le poil. Il existe une vraie droite républicaine, gaulliste, sociale, et je suis navré de considérer que ce n'est pas le portage politique d'Éric Zemmour, qui est un produit marketing politique. Et je vous le répète, on a eu déjà Emmanuel Macron en la matière.
On
a l'expérience. À un moment, il faut se réveiller, il faut regarder ce qui s'est passé il y a 5-6 ans.
Mais le fait qu'il ne soit pas candidat lui permet aussi de dire tout ce qu'il a dit hier dans l'interview avec Laurence Ferrari, en l'occurrence Mengele, etc.
Oui, c'est ça, toutes les dérives sont possibles tant qu'il n'est pas candidat. Mais ce qui est quand même angoissant, c'est-à-dire c'est qu'on puisse trouver, y compris, alors moi je pense que c'est une minorité dans la droite républicaine, des gens qui puissent accrocher à ce discours-là et à ses outrances. Parce que je ne crois pas que ce soit les valeurs de la droite républicaine classique.
C'est
l'absus intéressant.
La gauche républicaine sur certaines questions, c'est ce que vous vouliez dire, je pense.
Oui. Jean-Claude, un mot.
Il y a deux observations sur la la très probable candidature de M. Zemmour, c'est que la première, une campagne électorale, même si effectivement, médiatiquement, on le disait la semaine dernière, il y a de grandes thématiques et c'est pas un catalogue de mesures, c'est vrai qu'on va pas refaire les 110 propositions de François Mitterrand. Mais malgré tout, je pense que ce qu'attendent nos concitoyens, ce sont des solutions très probables aux réelles difficultés qu'ils rencontrent. On a parlé, par exemple, de cette crise sanitaire. Est-ce que notre État, est-ce que nous sommes prêts à affronter une nouvelle crise sanitaire et qu'est-ce que nous ferions différemment, autrement? Quelles mesures va-t-on prendre? Donc, si vous voulez, pour moi, ça, c'est la première chose. Une élection présidentielle ne peut pas simplement être... ça peut pas être dans l'incantation, on a vu avec Ségolène Royal ce que ça donnait à l'époque. Ça ne peut pas être cela. À un moment donné, il faut rentrer dans le dur et il faut proposer des choses très faisables. La dernière chose, c'est que j'insiste sur le fait que on ne va pas arrêter Éric Zemmour et l'idée de taper sur Zemmour ou un tel, ça n'est pas la bonne solution. Non. En revanche, il faut que les hommes et les femmes raisonnables dans ce pays se lèvent et disent « nous, c'est pas la France qu'on veut ». Et précisément, tel candidat, telle vision de la France, moi je vais vous dire, ça n'est pas la vision que j'ai de la France. Et effectivement, vous avez un auditeur qui a dit « Monsieur Zemmour propose que les personnes musulmanes qui respectent les lois de la République, etc. » Il y a des principes très simples dans notre pays et je ne pense pas que ce soit contesté. La réalité, c'est que quand on donne le sentiment que le déraillement de 10% d'extrémistes fait la majorité, c'est vrai que ça peut nous interroger. Moi, je suis pour le fait, je redis, il faut que les uns et les autres, enfin, se réveillent et militent.
Oui, mais là, de quoi on parle? On parle que d'Éric Zemmour. Vous dites que vous êtes dans le débat, mais il y a quoi comme débat? Qui apporte des choses dans le débat?
Mais par exemple, la question énergétique, énergétique, on va devoir payer notre énergie plus cher. On entend beaucoup alerte, alerte, alerte. Eh bien, personne n'en parle, en tout cas, peu de gens en parlent, et vous voyez bien, et merci de cette invitation que vous nous faites, parce que, vous voyez, on tente de lancer le débat. Énergie, réindustrialisation, questions migratoires, sécurité...
Elle est où Valérie Pécresse? Il est où Xavier Bertrand? On les entend pas vraiment, ou en tout cas, ils sont inaudibles. Marine Le Pen, ils sont tous inaudibles. Jean-Luc, vous voulez répondre pour les LR?
Oui, allez-y.
Non, je vais pas répondre pour les LR. Je suis sidéré du fait que le temps d'antenne, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est incroyable, quoi. On est dans une situation totalement dingue. On peut pas reprocher. On ne va dans des radios et des télévisions que si on est invité. Si on n'est pas invité, on n'y va pas. Je dis pas qu'il n'y a pas temps d'antenne.
Mais Valérie nous invite, elle, au moins.
Égal. Mais le fait d'inviter. Éric Zemmour a été condamné pour racisme. Après, CNews décide qu'il n'est plus une émission permanente. Immédiatement, je n'invente rien. Éric Zemmour est invité sur un certain nombre de chaînes, sur un certain nombre de radios, et pas des petites, des grandes. Immédiatement, et ça continue. C'est un phénomène qui est un phénomène uniquement de marketing. Et je le répète encore plus, chercher des signatures pour être candidat à la présidentielle, ça n'est pas si simple. Et Éric Zemmour n'a aucune organisation derrière lui.
Détrompez-vous. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a eu plusieurs maires. On a même eu hier Jacques Myard qui nous a dit qu'il avait été approché.
Jacques Myard va soutenir Éric Zemmour.
Mais non, impossible. Évidemment.
Pour moi, il peut les trouver. Les sondages vont l'aider à trouver. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc,
mais
je suis d'accord.
Mais Éric Zemmour, je pose une question, je change
de route.
Et je dis, mais où sont les autres candidats?
Je vais vous répondre là-dessus. Hier soir, Michel Barnier faisait un live sur ses propositions pour l'environnement et l'écologie. Xavier Bertrand, la semaine dernière, a proposé des éléments sur le travail en France et comment remettre la France au travail. Donc, moi, je veux bien que ça ne vous intéresse pas, que vous ne le relayez pas, mais ça existe. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Est-ce que ça intéresse les médias? Moi, je trouve, dès lors qu'on se positionne sur des propositions, y a des reprises qui sont exécutées. Maintenant, si on veut se laisser... effondré et ramassé par une lame de fond qui s'appelle Éric Zemmour, on est coupable également On peut ne pas être consentant. Enfin, moi, je passe mais pas hier, ma vie.
Non, mais on voit bien qu'on passe plus de temps. On voit bien qu'on passe plus de temps à analyser les petites phrases de ceux qui, en plus, courent derrière M. Zemmour, y compris le président de la République avec l'histoire des renvois aux frontières, des OQTF avec le Maroc, l'Algérie. On voit bien, et on passe plus de temps à faire ça qu'à vouloir parler de fond. C'est plus simple. C'est plus vendeur. Effectivement, malheureusement, le débat républicain et démocratique s'en ressent. Ça se traduit comment ? Par des clivages de plus en plus forts. Enfin, que ce soit les gilets jaunes ou les anti-vax, on voit que les choses se cristallisent de manière très dure dans la rue quand ça descend dans la rue. Mmh. Et on ne parle pas des sujets de fond qui sont effectivement le pouvoir d'achat, l'énergie, la souveraineté française, etc. Enfin, il y a des sujets en ce moment. Là, on aura encore parlé beaucoup de Zemmour ce matin. Il y a des sujets qui sont très intéressants. Qui se passe sur le siège permanent de la France aux Nations Unies, celle d'Allemagne au FMI.
On en a parlé hier. Regardez, hier, record d'audience.
Moi, je viens souvent et je parle souvent de Zemmour.
Record d'audience pour Christine Kelly avec Face à l'info. Depuis le départ d'Éric Zemmour, 774 000 personnes étaient devant CNews, devant toutes les chaînes info. Il n'y a pas Zemmour, ça veut dire que ses idées, elles sont
Christine
là.
Christine Kelly ressemble à Zemmour comme deux gouttes d'eau.
Non, mais le plateau est un plateau de droite, évidemment, ça veut dire quelque chose. Gens y vont,
on va pas
ça veut dire qu'il existe un électorat d'extrême droite dans le pays.
25%, 30%, à cet endroit, 45% d'électeurs.
On marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
On est ensemble jusqu'à midi. Je vous propose qu'on passe peut-être à un autre sujet, tout de même qu'on revienne sur cette déclaration hier de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. Il s'exprimait au lendemain de la remise du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Je vous rappelle, près de 330 000 victimes. Il a déclaré « Le secret de la confession s'impose à nous. En cela, il est plus fort que les lois de la République. » Ce même rapport insiste sur le fait qu'il est essentiel de signaler des témoignages de crimes sexuels. C'est ce qu'on reproche aussi à l'Église, d'avoir effectué une espèce d'omerta sur ces témoignages, plus fort que les lois de la République. Ça vous choque ou pas, cette déclaration ?
Oui, ce qui est choquant, alors, moi, j'ai grandi dans une culture catholique, donc j'ai entendu ça toute ma vie, etc. Ce qui me choque, c'est que les évêques ont tout pouvoir la conférence des évêques a tout pouvoir sur l'Église catholique française. Ils ont le pouvoir de nomination, ils ont le pouvoir de ils font des super DRH, ils ont tout ça. Ils sont à la fois juges et partis. Ce qui me choque, c'est qu'il aurait déjà dû commencer par dire, voilà ce qu'on va mettre en place pour qu'on puisse signaler, pour qu'on puisse parler, pour que les victimes puissent parler. Parce que quelqu'un qui vient se confesser qu'on ne le dénonce pas, mais que les victimes puissent parler dans l'Église, ça n'existe pas. C'est ça qui me choque le plus. Moi, j'ai un cas autour de moi qui est un enfant victime qui s'est battu, un des premiers, qui est allé jusqu'au procès, qui a été reconnu il y a quelques années maintenant. C'est un monsieur qui a passé la soixantaine. Il n'y avait pas d'écoute. L'Église catholique n'écoutait pas les victimes. Et il y avait cette omerta, on le voit bien d'ailleurs.
Nous sommes dans un état de droit, c'est pas...
Oui, mais... Il faut
fonctionner en circuit fermé, ça n'a jamais été correct.
C'est exactement ce qui s'est passé avec les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut que cette Église trouve les moyens, de nettoyer les écuries de Gias, d'arrêter de couvrir, parce que c'est pire que ça. C'est le secret de la confession est une chose. Mais on a couvert, quand on le savait, simplement déplacé des gens. On a fait des nouvelles victimes. Et ça, la conférence des évêques ne peut pas se dédouaner de cette responsabilité-là.
Jean-Claude, par rapport à ce qui vient d'être dit, et le sujet du secret, c'est un sujet qui n'est pas simplement propre à l'Église. On le connaît pour le secret médical et le secret de l'avocat.
Attendez.
J'y viens. Je pense qu'il y a une chose. Le secret de la confession, on l'a toujours vu, était absolu. Pour autant, la question qui est posée, c'est lorsque vous avez connaissance d'un fait criminel, qu'est-ce que vous devez faire, et c'est parce que c'est surtout pour l'avenir, l'obligation donc de dénoncer. Je pense que là où on aurait, où j'aurais attendu de l'évêque, du président
de la conférence
des évêques, c'est qu'il nous dise quelles mesures il va prendre, tout en respectant le secret de la confession, quelles mesures va être prise pour organiser, parce qu'il est évident que ça n'est pas toujours simple. Je vais vous donner un exemple, c'est que lorsque, en tant qu'avocat, vous avez connaissance d'un fait qui est délictueux, d'une infraction grave, vous avez un bâtonnier qui est un filtre, qui apprécie, et tout s'organise, c'est pas chacun dans son coin qui court aller dire, voilà, je sais telle chose, de manière à maintenir le secret de la relation. Donc c'est là où il faut que l'Église, en tout cas que le président de la conférence épiscopale évolue, parce qu'on ne peut pas simplement se contenter de dire, dans un État laïque, qui par ailleurs est laïque, de dire le secret de la confession est supérieur aux lois de la République, ou alors on risque de tomber dans un système où d'autres religions pourront dire, eh bien effectivement, nous, telle ou telle règle est supérieure.
Oui, non, mais c'est vrai
et ça va à l'encontre de ce travail qui est extraordinaire qu'a fait l'Église catholique. Tout le monde ne l'a pas fait. Tout le monde n'a pas fait ce travail-là. Il y a plein d'endroits où on l'a pas fait encore.
Et il faut savoir que le rapport Sauvé,
de se regarder en face.
Il faut savoir que le rapport Sauvé, Jean-Marc Sauvé est l'ancien vice-président du Conseil d'État. Il a été jésuite avant d'intégrer la deuxième fois l'École nationale d'administration. Donc c'est un homme qui est profondément attaché à
l'Église. Jean-Luc Benamias.
Cette phrase est terrible. Mmh. C'est à la négation même de la loi 1905, c'est la négation même du fait que la République est supérieure à tout cela. Si un imam responsable d'une des communautés musulmanes de France sortait cette phrase,
ça a déjà été le cas,
ça ferait la une, l'explosion générale.
C'est tout le monde l'a condamné de manière.
C'est incroyable. Je reconnais moi à la commission d'enquête, qui est un travail incroyable qu'ils ont fait, incroyable, des recherches, et effectivement avec des gens issus de l'Église catholique qui ont fait tout cela. Remarquable. Mais là, revenir en arrière et sortir cette phrase, il y a vraiment un besoin pour ces dirigeants de l'Église catholique de retomber et d'avoir les pieds sur terre par rapport à tout cela. Oui. C'est de la même manière que quand on dit on va rembourser. Rembourser quoi?
C'est cet appel, fait par l'Église pour rembourser, qui organiserait une sorte de quête nationale pour indemniser les victimes de sa propre hiérarchie. C'est quand même, ça interpelle aussi.
Moi, je regrette et on est tous d'accord autour de cette table et jusqu'à Marseille, que le formidable travail d'introspection qui a été réalisé par l'Église soit gâché en une phrase qui est évidemment condamnable, totalement inique. Et d'ailleurs, il y a eu un rétropédalage par la suite. De manière un peu technique, le secret professionnel n'existe pas dans ce cas-là, puisque les prêtres, les curés ne sont pas listés dans les professions.
Sont
les avocats, les médecins. Donc mettre le secret professionnel en avant ne fonctionne pas. Il y a les 10 commandements les 10 commandements qui sont une forme de loi supérieure dans l'Église parlent de la protection de la vie de la personne et s'appliquent dans ce cas de figure. Et je pense qu'il est très important de distinguer ce qui relève de la confession et de la confidence. Il y a des cas où, à l'issue de la confession, il y a des accompagnements pour des femmes battues, pour des cas de violences sexuelles sur mineurs. Il y a des cas qui ont été, je pense que l'Église se grandirait à encourager
c'est la raison pour laquelle
que ces affaires soient traitées par la justice dans un état de droit qui prévaut à n'importe quelle religion.
C'est ce qui m'a fait vous dire que par parallélisme, on a trouvé d'autres solutions parce qu'on a eu les mêmes débats en d'autres temps. On a trouvé des solutions. Et donc là aussi, l'Église doit trouver les solutions complètement adéquates, parce que l'opinion publique, en plus, dans un pays qui est profondément catholique, l'opinion publique ne comprendrait pas. Et donc là, il faut, c'est une phrase qui, je l'espère, est maladroite, parce que...
Cette phrase est symptomatique de ce qu'est la conférence des évêques de France, c'est-à-dire une institution assez sclérosée et qui a du mal à se remettre en cause et à regarder ses propres responsabilités. On le sent bien, c'est malheureux que ça n'avance pas.
Il est temps qu'un certain nombre de catholiques, et moi je parle d'autant plus simplement que je suis catholique pratiquant, je dis oui, ce type de formule ne me convient pas en tant que catholique.
C'est pas admissible. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre.
Merci.
Très très bonne journée à tous sur Sud Radio. On se retrouve demain pour d'autres infos. À